On a fait un constat que le processus de graduation est extrêmement lent. Depuis 1971, la date où les Nations Unies avaient créé ce groupe, dans plus de 40 ans, seulement 4 pays ont pu sortir de ce club, notamment le Cap-Vert, le Botswana, Maldives, Samoa. Ce qui fait en moyenne un pays qui sort de ce club tous les 10 ans. Et à Istanbul, quand on a eu la conférence en 2011, on a tous convenu que ce processus était lent, était à la limite inacceptable. Et il fallait d'ici 2020 nous assurer qu'au moins 50% des PMA sortent de ce club. Et c'est faisable. Et donc l'objet de la conférence, c'est voir comment le faire.
Du côté des principaux obstacles au développement, j'évoquerai ici les questions de gouvernance ou encore de simplification des affaires, parce qu'on sait qu'en fait, dans beaucoup de pays, il est encore compliqué de faire des affaires.
Il y a cela, mais il y a un peu plus profond que cela. D'abord, je dois dire que côté gouvernance, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique, il y a eu énormément d'améliorations. D'ailleurs, les taux de croissance un peu impressionnants qu'on observe aujourd'hui en Afrique, les taux de 5 à 6% sont à partie dus à l'amélioration de la gouvernance, pour un tiers d'ailleurs, d'après nos calculs. Ce qui est beaucoup plus profond, disons, les contraintes dirimantes à cette évolution rapide, sont surtout la faiblesse de la transformation structurelle des économies africaines ou des PMA en général. Par là, j'entends que très souvent, dans beaucoup de ces PMA, la base économique est limitée, la croissance repose sur un ou deux secteurs, souvent des secteurs d'exportation, mais d'exportation de matières premières brutes sans valeur ajoutée. Et donc, il y a des risques de réversibilité parce que si le marché international des matières premières se retourne, ces pays vont perdre tous leurs avantages. C'est un peu cette fragilité que l'on constate au niveau de ces pays. Donc, une des recommandations fortes de la conférence, c'est un peu d'assurer la transformation structurelle. L'autre deuxième point faible que nous constatons, c'est que la croissance économique n'a pas eu d'effet réel sur la réduction de la pauvreté et le développement social. Et donc, il faudra beaucoup travailler sur la réduction des inégalités. Naturellement, ce que vous dites est juste, parce que la croissance est importante, elle doit s'accélérer. Elle ne peut le faire que si, disons, le climat des affaires est amélioré. Et dans ce sens, la gouvernance côté affaires est très, très importante.
Alors, vous évoquez les faiblesses du secteur de transformation. L'Afrique reste très tributaire des exportations de matières premières, mais pour développer la transformation de ces matières premières en Afrique, encore faut-il être doté des infrastructures nécessaires.
Absolument, sans infrastructure de base solide, l'énergie, les transports, aucun développement n'est soutenable. Mais on a convenu que, disons, les besoins financiers en matière d'investissement sont énormes et que ce serait très difficile pour un seul pays de le faire. C'est pourquoi ce sont des investissements d'échelle qu'il faut faire ensemble, en coopération, intégration régionale. Et nous avons tous retenu et salué le fait que le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui est un peu le vecteur de l'Union africaine, le vecteur premier pour lancer, disons, les programmes d'infrastructure, est en train de faire un très bon travail et il faut continuer dans ce sens-là. Par exemple, ici, au Bénin, où je suis, le gouvernement est en train de réfléchir avec les pays limitrophes comment, par exemple, lancer de route les routes à Abidjan. Donc, les grands investissements d'échelle sont des éléments très importants pour accompagner la croissance économique, mais une croissance économique qui s'accompagne d'une transformation structurelle et ensuite d'un meilleur développement humain.